Bonjour, vous allez écouter une interview du Futsbaum Traveling Theatre réalisée par Hervé Bismuth, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, à propos de cours de littérature montés en première année de lettres modernes au centre de formation ouvert à distance La Passerelle. Cette interview sera podcastée sur le site du téléenseignement de l'Université de Bourgogne et sur le site du centre dramatique Théâtre Dijon-Bourgogne qui organise cette interview. Bonjour Vincent, bonjour Paddy, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Je m'appelle Vincent Gracieux, je suis au Futsbaum depuis 2 ans maintenant, quoique j'ai suivi la route du Futsbaum pendant beaucoup plus longtemps et travaillé avec certains membres du Futsbaum avant. Et j'ai participé à l'adaptation de L'Homme qui rit de Victor Hugo et je suis sur scène pour les deux spectacles, Le songe et L'Homme qui rit.
Et moi, je suis Paddy Ayter, je suis anglais. L'origine de Futsbaum, ça a commencé en Cornouaille dans les années 70. Et moi, je suis là depuis 34 ans comme membre de l'équipe, acteur, metteur en scène, monteur de chapiteau, quelqu'un parti de cette famille. Voilà.
Alors, le Futsbaum est une troupe connue en Europe, elle tourne régulièrement en France. Si vous avez à présenter la troupe à des gens qui n'ont jamais vu ou qui n'ont aucune idée de ce qu'est le Futsbaum, vous la présenteriez comment, cette troupe ? Qu'est-ce qui pourrait la définir ?
J'espère que la définition, c'est plutôt que c'est un groupe des gens qui ont une passion profonde pour jouer pour tout le monde. On a commencé dans le Cornouaille, qui est une région rurale en Angleterre, dans le sud-ouest. Qu'on a commencé, il n'y a même pas eu, je crois, il y a eu une théâtre dans toute la région. Et on a commencé de jouer dans la rue, dans les salles de fête, dans les bars, sur les plages, dans les marchés. Le but de Futsbaum, c'était toujours d'être accessible à tout le monde et de raconter les histoires qui ont quoi une valeur, ou pas valeur, c'est un peu... On veut que les gens puissent rêver un petit peu.
Merci. Le Futsbaum a aussi une autre spécificité, c'est de ne pas jouer sur les scènes conventionnelles. Vous vous promenez avec votre propre chapiteau. Pourquoi un chapiteau ?
Il pleut pas mal en Angleterre. Non, mais la vraie raison, on a commencé, comme j'avais dit, il n'y a pas eu des bâtiments pour le théâtre. Très, très peu. On a découvert rapidement que l'espace conventionnel, proscenium de théâtre, c'était pas ça qu'on a eu envie. Alors, le chapiteau fait 3 choses. On peut faire payer les gens, parce qu'avant, on a souvent passé les chapeaux. S'il pleut, c'est plus facile de jouer. Et aussi, d'avoir notre propre espace scénique. On joue beaucoup dans l'arène, parce qu'il y a un vrai espace, il y a un faux espace pour jouer.
Qui est l'espace dans lequel vous répétez de toute façon, aussi ?
On répète chez nous, où on est maintenant en Allier. À Edison. On a un petit studio où on fait les premières répètes, mais assez vite on va dans le vrai espace parce que pour nous, la mise en scène, ça n'existe pas vraiment. C'est l'espace et le texte et les acteurs qui créent une mise en scène, mais il faut être dans l'espace.
Merci. Si on est réunis, c'est à partir d'une rencontre de hasard. J'avais décidé de donner des cours, de monter un cours, entre autres sur L'Homme qui rit, pour certaines raisons, dont celle-ci qui pour moi était la plus importante. C'est un roman que je trouvais terriblement actuel. Mais surtout, pour moi, il n'y avait aucune chance pour que mes étudiants, même mes télé-étudiants, dont la moyenne d'âge est 30-35 ans, il n'y avait aucune chance que ces étudiants aient eu déjà des cours au lycée, par exemple, sur L'Homme qui rit. Parce que c'était pour moi le roman le plus improbable qu'on puisse étudier dans un contexte scolaire. Et c'est vrai que à côté de choses comme Notre-Dame de Paris, Les Misérables et même 93, c'est un roman assez marginal de Victor Hugo. Donc puisqu'on s'est rencontrés par hasard sur ce projet commun, pourquoi vous êtes-vous intéressé à L'Homme qui rit ? Pourquoi monter L'Homme qui rit ?
Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un des romans les plus étonnants de Victor Hugo. C'est un roman de fin de vie, c'est-à-dire qu'il possède déjà son art au plus haut niveau. Il a déjà écrit ses chefs-d'œuvre, comme Les Misérables, Notre-Dame de Paris, tout ça. Et donc, c'est aussi un roman d'exil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui raconte des choses loin de ça, qui s'est exilé volontairement, donc qui parle en fait de son pays depuis une île. Et c'est aussi un roman sur l'espace, et on a vraiment l'impression qu'il a beaucoup écrit en regardant l'océan quand il a fait ce roman-là, et que d'ailleurs ça parle de la mer. C'est un des romans, les premières 110 pages ou 120 pages décrivent une tempête et un naufrage et un enfant abandonné. Donc c'est une espèce d'énorme cosmographique aventure qui commence tout de suite, et on a vraiment l'impression qu'il a écrit ça en regardant la mer, quoi. Au début. Et puis ça fait aussi, c'est des histoires personnelles, c'est des histoires sur l'enfant, c'est le regard de Victor Hugo sur les enfants, c'est le moment où il vient de perdre son petit-fils qui est mort, et deux ans plus tard il y a un autre petit-fils qui naît, qui va s'appeler Georges comme l'autre. C'est une histoire de la perte, c'est une histoire de la renaissance. C'est donc, ces thèmes-là sont vraiment les grands thèmes du roman, qui est l'histoire de l'homme qui rit, cet enfant qui a été défiguré, comme on faisait à l'époque. Enfin, on prenait des enfants, on achetait des enfants, on les défigurait, on les vendait aux grands pour amuser les grands. Et donc, c'est cette histoire de cet enfant qui a été défiguré et qui, tout d'un coup, parce qu'il y a une bouteille qui a été jetée à la mer, quand la bouteille arrive sur le rivage, ça va changer sa vie, puisqu'on découvre que c'est le fils d'un lord, d'un père d'Angleterre, et que donc il peut retrouver sa fortune. Et en même temps, retrouver sa fortune et être confronté au monde des grands à ce moment-là, ça va causer sa perte à lui-même. Donc, bon, avec l'amour qu'il rencontre depuis l'enfance, enfin bon, c'est assez énorme, quoi.
Et quelle est la raison, s'il y en a une, ou s'il y en a une plus importante que les autres, quelle est la raison qui a fait que vous vous êtes retrouvé sur l'homme qui rit ?
Qu'on s'est retrouvé, simplement, moi j'avais déjà fait une première adaptation, ce qui était presque ce qu'on appelait une ébauche, c'est-à-dire que c'était pas un spectacle fini, qu'on avait adapté ce roman que je voulais monter depuis longtemps avec un autre acteur metteur en scène aux États-Unis. On a fait une première ébauche. Il se trouve qu'à ce moment-là, on était en train de répéter Hamlet de Shakespeare, qu'on avait demandé à Paddy et à Freddy, qui est la scénographe qui crée les masques, de venir travailler avec nous. Et en même temps qu'on a monté Hamlet, ils ont pu voir cette première ébauche de L'Homme qui rit. Et ça a donné envie de se retrouver pour monter un vrai spectacle, ce qu'on a fait.
Parce que c'était un thème qu'entre l'équipe de Futsbarn, on a parlé de L'Homme qui rit depuis quelques années. Un autre acteur qui s'appelle Paddy aussi a proposé fortement ce sujet que moi, j'avais jamais vu ni lu. Sorry, my French is terrible. Mais aussi le fait que c'est un roman de 850 pages, pour moi, de lire ça en français, je m'excuse, j'arrive pas encore. Alors,
le roman n'a pas été traduit en anglais.
Grâce à Vincent Gracieux, il a offert une version en anglais. Et c'était là que finalement on a dit qu'on peut...
Il y a une vieille traduction qui doit dater de 1910, qui est assez littéraire et qui permet d'aborder l'anglais. Mais il y a des tas de pays, par exemple, on a une actrice japonaise, elle a essayé de trouver L'Homme qui rit en japonais, impossible. Donc c'est un des romans, alors qu'évidemment Notre-Dame de Paris et Les Misérables sont traduits dans toutes les langues du monde, je suppose. L'Homme qui rit, il y a des manques terribles de traduction, ça c'est sûr.
Bien entendu, je pose la question parce que, pour cette raison-là, L'Homme qui rit est marginal, puisque c'est marginal même du point de vue de la traduction des œuvres de Hugo. Mais L'Homme qui rit, du début jusqu'à la fin du roman, c'est entre autres l'histoire d'une représentation impossible. L'Homme qui rit montre des choses impossibles à représenter. Je parle déjà pour le lecteur, y compris ce visage, cette grimace de Gwynplaine qui est décrite pourtant, les sourcils de telle façon, les narines épatées, etc. Mais l'objectif est de présenter au lecteur, de la part du romancier, de présenter au lecteur un visage qui, selon les cas, peut épouvanter, selon les cas, peut faire exploser de rire, et quelque chose difficilement représentable. Et moi, je pensais aussi que si de très loin des œuvres de Hugo, c'était le roman le moins adapté au théâtre, c'était peut-être à cause de ça. On avait mentionné, on peut rappeler rapidement qu'en adaptation filmique, il y a donc ce film anglais, non, pardon, ce film américain,
oui,
des années 20, ce film muet. Il y a l'adaptation, le téléfilm de Jean Kerchbrun en France qui remonte, je crois, à 73. Et il y a, on avait mentionné les lectures théâtrale de Gérard Guillaumat dans les années 80, l'époque où Gérard Guillaumat lisait des ouvrages entiers sous l'égide du TNP. Et j'étais resté personnellement à cette idée que l'homme qui rit était difficilement représentable, puisque même dans le film américain, la grimace de l'homme qui rit n'est pas vraiment celle de Hugo. Et c'est difficile de représenter l'irreprésentable.
Oui, oui, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on demande, en fait, on demande au spectateur de faire un peu la même démarche que le lecteur fait. C'est-à-dire que l'image qu'on lui offre ne représente pas un achèvement d'une image. C'est-à-dire que le spectateur soit invité à développer son imagination et il va pas voir un homme qui rit, il va voir la suggestion d'un homme qui rit. Donc après, c'est à lui de se représenter son propre homme qui rit, puisque son propre homme qui rit, c'est aussi chacun un homme qui rit en lui d'une certaine façon. Donc c'est ça. Et le lecteur, c'est pareil, quand Victor Hugo dit que tout d'un coup la lumière frappe son visage et toute une salle éclate de rire. Bon, c'est pas possible à représenter, ça, y a pas de... Donc il y a un travail d'imagination qui se fait de là pour le spectateur, qui doit exister et qu'on doit aider à suggérer, c'est tout ce qu'on peut faire.
Et le théâtre quand même, c'est ça. Le théâtre, c'est pas un acte réel, on peut pas. Moi, je joue Gwynplaine et je trouve cette... C'est impossible. Et aussi le fait que le public voit le visage pendant 2 heures... De faire un effet qui fait l'effet de ça, c'est impossible. Alors il faut faire, et on fait très simple avec maquillage, et on fait que le public doit eux-mêmes faire ce travail. Et je crois que c'est horrible comme challenge de faire ça.
Alors, L'homme qui rit, c'est un roman qui met en scène, on va dire, 100 ou 200 personnages, avec 8 personnages principaux et une bonne vingtaine de personnages secondaires qui jouent directement, enfin qui ont du texte à dire ou des actions concrètes. Vous avez fait quel choix d'adaptation ?
On a fait le choix de prendre les personnages principaux qui étaient ceux qui sont le moteur du roman. Donc on fait L'homme qui rit à 6. Il y a quelques groupes comme ce qu'on appelle les comprachicos, c'est-à-dire les voleurs d'enfants au début dans le bateau. Il y a la chambre des lords où on fait plus on représente des groupes. Sans ça, on fait chaque personnage, l'évolution de chaque personnage qui sont importants. Voilà, oui. Donc on y arrive à 6 là.
C'est juste.
Donc je suppose que dans les personnages de la Green Box, il n'y a pas Vinny, Phoebos, etc.
Non, on avait pensé ça. Il y avait un choix de moi, j'aurais aimé qu'il soit là, que ce soit par exemple les musiciens qui fassent ça, mais on n'a pas trouvé ça. Donc on les a enlevés. C'est vrai que ce sont des personnages assez intéressants, les personnages qui suivent un peu la troupe. Mais bon, il aurait fallu qu'on soit un peu plus. Ça c'était pas possible.
Parmi les personnages qui jouent dans la troupe, dans ce monde où les hommes sont des bêtes et inversement, il y a Homo. Alors, vous avez gardé le personnage d'Homo ?
Non seulement on a gardé le personnage d'Homo, mais ça c'est une chose moi que j'avais déjà faite quand j'ai fait la première adaptation. On a fait parler Homo. C'est-à-dire qu'à certains moments, il prend des éléments du récit à sa façon, il raconte un peu l'histoire de la compagnie. Et ces commentaires de Lou Homme sur la société, le spectacle et tout ça. Et ça, moi, quand j'ai lu le roman, j'ai toujours lu, puisqu'on lui dit c'est toi l'homme, Ursus lui dit c'est toi l'homme, c'est moi la bête. Donc, il était facile de franchir le pas, de le faire parler, en fait.
Mmh. Donc il prend en charge une partie du travail du narrateur. Est-ce que la voix du narrateur participe au spectacle ?
Alors la voix du narrateur participe au début, à certains moments, et à certains moments dans les voyages de Gwynplaine, les voyages les plus intérieurs, où le narrateur décrit un petit peu ça, il n'y a pas du tout un narrateur qui suit tout le spectacle, c'est juste à certains moments. Et moi je dirais que c'est, oui, ça correspond un peu au voyage intérieur de Gwynplaine, le narrateur.
Au début, on a utilisé plus de narration et doucement, on a enlevé dès qu'on a trouvé le spectacle, le théâtre. Le théâtre amène beaucoup.
Alors justement, du point de vue du théâtre, du spectacle, c'est-à-dire de la représentation, moi ce qui m'intéresserait, c'est que vous parliez de trois sujets irreprésentables. Pour des raisons différentes, il y a trois choses, on va dire, rien n'est irreprésentable au théâtre, il y a trois choses qui posent des problèmes de représentation dans ce roman. Il y a d'abord ce fameux masque de Gwynplaine, puisqu'il représente lui-même l'irreprésentable. Il y a cette longue séquence de la première partie du naufrage en mer, et il y a aussi, là c'est plus pour des raisons techniques ou de mise en espace, il y a la représentation à l'Intatcaster, c'est-à-dire le spectacle dans le spectacle. On voit les gens qui assistent au spectacle comme dans les pièces de Shakespeare, comme vous êtes une troupe shakespearienne. Je pars du principe que vous avez déjà énormément de solutions pour montrer le théâtre dans le théâtre. Voilà, ces trois questions-là, comment représenter Gwynplaine, comment mettre en scène le naufrage de l'Ourcq, et comment mettre en scène le spectacle d'une représentation théâtrale avec une scène intérieure.
Bon, alors pour la première question, le visage de Gwynplaine, bon, ben c'est un. Nous, on l'a traité à un niveau de maquillage. On a essayé d'autres choses. C'est-à-dire qu'au cinéma, il y aurait sans doute des instruments dans la bouche qui feraient qu'on pourrait en même temps parler et avoir une espèce de déformation du visage continuelle. Au théâtre, on n'a pas fait ça parce que c'est trop difficile pour l'acteur. On a essayé des choses, mais bon, ça devient compliqué. C'est-à-dire que ça devient une torture pour l'acteur. La torture du personnage devient une torture pour l'acteur. Et ça, c'est une chose difficile quand même qu'on peut pas se permettre parce que la liberté, ça enlève la suggestion d'une certaine façon et la liberté de l'acteur est fortement compromise. Donc on n'a pas été de ce côté-là, quoi qu'on a toujours envie, on a toujours envie de dire, mais on peut créer quelque chose qui serait libre et en même temps ça donnerait ce... Mais bon, c'est 4 heures de maquillage et c'est des instruments dans la bouche et des choses qui sont trop contraignantes en fait. Voilà.
Et je crois qu'un acte le plus important, c'est un acteur, il fait ça à l'intérieur. Oui. Il faut que l'acteur sente d'être mutilé. Et voilà. Il faut que... C'est un maquillage assez extrême. Moi, j'avais essayé avec les choses de dentiste qui force, qui pousse. Dans son nuit d'été, je porte les faux dents qui sont énormes. On souffle sur le plateau toujours, quelque part. Mais pour ça, ça a devenu faux. De chercher pour une chose, ma femme a fait un masque. L'enfant, il a un petit masque. C'est un autre acte. C'est l'actrice qui joue Dea, qui joue Gwynplaine au début. Et elle a un masque. Et moi, c'était pas juste parce qu'il faut que l'acteur même fasse cette métamorphose à l'intérieur de. Et que le public peut, par les maudits, par tout ça, avoir l'image. C'est, comme je dis, chaque fois qu'on arrive, il y a deux, trois moments, il faut vraiment avoir ça. C'est...
De la même façon qu'on peut jouer Cyrano de Bergerac sans phoner.
Probablement.
Probablement, oui. Tout à fait.
Encore que je pense que c'est plus facile de jouer Cyrano de Bergerac sans phoner que Gwynplaine sans, sans rire atroce.
Non. Il faut voir.
Et alors le naufrage de l'Ourcq.
La tempête, on l'a suivi, on en a fait une scène de 10 minutes où on raconte l'histoire de ce bateau. Simplement, dans le roman d'Hugo, le découpage des choses, la simultanéité entre la tempête et le voyage de l'enfant, bon, on a un peu changé ça dans l'ordre de la narration.
Mais... C'est très shakespearien d'ailleurs, oui. Cette narration où on est dans une tempête et puis on suit quelqu'un d'autre. C'est la façon dont dans Shakespeare les scènes alternent d'une scène d'extérieur à une scène d'intérieur.
Oui, au niveau théâtral, on a fait le plus facile, c'est-à-dire qu'on voit l'enfant, on voit le départ des Comprachicos quand il fuit l'Angleterre sur le bateau, on voit l'enfant abandonné. Ensuite, on suit l'enfant pendant un certain, on commence le voyage de l'enfant. Ensuite, on revient au bateau qui est en train de couler avec la tempête et donc le naufrage, les signatures et le message qui est envoyé à la mère avec l'histoire de l'enfant, donc qui est l'objet qui va dériver et qui va être signifiant de toute son histoire, qui va arriver sur le rivage 10 ans après. Et puis après, on revient à l'enfant, de son dernier voyage dans la neige, la découverte du bébé qui est Déa, donc qui sera son amour et sa passion. Et puis l'arrivée dans la société avec la découverte d'Ursus et d'Homo, c'est-à-dire de la baraque du loup et de l'ours.
Et donc concrètement, ce naufrage en mer, je suppose qu'il n'y a pas une trentaine de personnes dans une barque qu'on montre en train de s'abîmer dans les flots pendant que les gens sont à genoux en train de faire leur dernière prière.
Non, non, il y a 6 personnes, mais ça c'est une chose qu'on a, quand on travaille le cœur, quand on travaille beaucoup gestuellement et tout ça, ça c'est des choses que faire venir les éléments dans son corps et jouer avec les éléments d'une façon suggestive est une chose qu'on fait souvent, ça.
Et le naufrage lui-même ?
Le naufrage lui-même, ça peut être un rideau qui se ferme, ça peut être des tas de choses.
On utilise beaucoup des rideaux, des ombres, de lumière, on utilise les projections, même les objets qui bougent, il y a un petit bateau qui tombe dans une bac d'un frigo de l'eau qui passe par un rétroprojecteur et ça donne l'image d'un bateau avec les petits corps qui coulent dedans. L'imaginaire peut...
Oui, ça ressemble un peu à ce film qu'avait fait Peter Brook en adaptant Sa Majesté des Mouches, The Lord of the Flies. Alors que pourtant c'était un film avec les moyens d'un film et où l'accident d'avion est simplement signalé au début du film avec un avion en papier qui brûle et puis...
Voilà. Mais c'est les choses comme ça qui m'a... ça, c'est toujours fascinant, les choses simples sont plus poétiques que les choses complexes, parfois, ou peut-être...
Oui, c'est-à-dire, bon, il n'y a aucun...
C'est impossible de t'écrire.
Dans la description d'un naufrage, il n'y a rien de... Bon, il y a l'histoire du voyage, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on voit les formes, on voit le tourbillon, mais il n'y a pas de réalisme à ce niveau-là. Et quant à la représentation, pour répondre à la dernière question, la représentation, elle est très faible. Ce qui nous fallait, c'est la façon dont la représentation, faut expliquer un peu aux gens. Bon, la représentation, ça commence avec le combat entre Gwynplaine et puis les forces sauvages, qui sont les bêtes, c'est-à-dire on a l'ours et le loup. Et au début,
Le spectacle de chaos vaincu.
Qui est mieux que Shakespeare.
Qui a un nom très précis, chaos vaincu. Oui. Donc, on commence par le chaos. Donc, il y a le loup et l'ours qui sont en train de déchirer l'homme, c'est-à-dire Gwynplaine. Et tout d'un coup, il y a une lumière qui apparaît, un champ, une lumière. Et il y a Déa, puisque c'est elle qui joue ça et qui est la lumière. Celle qui est aveugle et la lumière dans le roman de Victor Hugo. Ça, c'est très précisément dit. Et donc elle arrive et elle sauve Gwynplaine. Gwynplaine revit, elle un peu comme Jeanne d'Arc pourrait faire revivre. Et tout d'un coup, il se remplit de cette lumière et il abat les bêtes. Et bon, il se touche, elle lui touche le front et tout d'un coup, il rit. Et c'est ça. Donc l'idée fondamentale, c'est comment représenter cette lumière qui vient vers lui. Alors nous, on a utilisé les moyens du cirque, les moyens visuels du cirque, c'est-à-dire que Akemi qui joue Déa est aussi fait beaucoup de tissus, donc elle arrive, elle descend un tissu et pour toucher Gwynplaine. Donc c'est notre façon à nous de mettre ça en forme et de faire la parabole.
C'est une parabole d'ailleurs qui fonctionne dans le roman parce que Déa a un nom de déesse. Le roman dit plusieurs fois. J'ai ce souvenir parce qu'on a enregistré ce commentaire-là il y a peu de temps. Qu'on parle plusieurs fois explicitement à un ange et Chaos vaincu ressemble un peu aux miracles médiévaux.
Oui, tout à fait.
Qu'Hugo connaissait bien puisqu'il avait écrit Notre-Dame.
Oui, absolument.
C'est-à-dire Déa joue le rôle de la Vierge Marie descendue du ciel.
Oui. Oui, absolument. C'est tout à fait une chose médiévale quoi, qui aurait pu être jouée sur le parvis d'une cathédrale. Tout à fait, le spectacle, c'est ça. Mais il est dur parce que il est dur à mettre en scène parce qu'il faut garder la simplicité et en même temps, Hugo provoque des choses tellement cosmographiques entre le néant, l'infini, entre les ténèbres et la lumière. Tout est basé là-dessus. Et il faut trouver le moyen simple théâtralement de faire ça, parce qu'on pourrait utiliser 1000 projecteurs pour faire ça, mais utiliser 1000 projecteurs pour raconter cette histoire, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de trouver, bon, je sais pas si on a réussi, mais ce qui a du sens, c'est de trouver la manière simple de rendre ça, la descente du ciel pour sauver la terre.